This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast où l'animateur ne parle pas trop fort pour ne pas réveiller ses enfants, mais c'est aussi un podcast où on mène des combats acharnés entre personnages de la pop culture, entre personnages réels et existants et historiques, et j'en passe et des meilleurs, donc... Aujourd'hui, ça sera à vous de nous déterminer si on parle de personnages de fiction ou de personnages réels et historiques, puisqu'on va faire vivre le combat entre King Kong et Godzilla en compagnie de Marvin. Marvin, comment ça va?
Ça va très très bien, et moi aussi je parle pas trop fort pour pas réveiller l'enfant.
C'est ça la vie de, c'est ça la vie du podcast en,
c'est terrible,
en,
c'est
en
un
2021.
Vrai podcast. Ouais.
Dis donc, tu parles beaucoup de Godzilla en ce moment.
Ah bon, tu trouves? Ouais, alors ouais. Ouais, et malheureusement, je parle peut-être pas beaucoup du bon Godzilla.
Ah bah écoute, je pense qu'aujourd'hui, on va parler du bon et du mauvais Godzilla.
Ouais, c'est ça.
Enfin, moi, je ne connais que le bon Godzilla, hein, personnellement. Mais
Ah, écoute, on y reviendra certainement. Mais...
Je parle du Godzilla japonais, évidemment.
Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, mais moi, je suis trop jeune, moi, tu comprends.
Bon bah écoute, merci d'être là pour accepter de faire le combat entre King Kong et Godzilla.
Ouais, c'est une énorme responsabilité quand même, hein, tu vois.
Ouais, quand même.
Et en plus, en ce moment, ce qui est beau, c'est que tu surfes un peu sur l'actu, tu vois. On peut remarquer ça aussi, quoi. On y est presque là.
Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on avait prévu de faire l'épisode et de le sortir genre en même temps que King Kong contre Godzilla, enfin contre Godzilla versus Kong, là, la dernière chose qui est sortie, bah pas au cinéma, mais en VOD, et puis on a oublié en fait.
Bah ouais, mais quand même, toi, enfin, moi c'est pour relever le truc, on peut quand même préciser qu'on enregistre le jour où potentiellement il aurait pu sortir au cinéma, tu vois.
C'est vrai.
Donc, quelque part, on n'est pas si loin du. Tu vois, on n'aurait pas pu synchroniser avec le jour où tout le monde le téléchargeait salement, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ça aussi.
Mais bon, là, du coup, on ne spoil rien, on ne divulgue rien. On va parler de. Enfin, on va pas parler de ce film-là.
Ouais, mais on va peut-être devoir quand même.
Non, oui, pardon, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que. Pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas dévoiler des choses d'un film qui n'est pas encore sorti.
Ouais, c'est ça.
On a la conscience tranquille.
Exact.
On va pas se reposer sur la copie presse qu'on a reçue 2 semaines avant la sortie officielle.
T'appelles ça une copie presse ou un torrent? T'appelles ça comme tu veux. Mais...
un torrent, un torrent, je connais pas.
D'accord. Okay.
Dis-moi, comment est-ce que tu définirais les deux adversaires du jour en fait?
Bon, en fait, qui est qui? Je pense en fait qu'ils sont vachement liés. En fait, bah de toute façon, ils ont été liés très. Enfin, je vais pas dire très vite parce que ça a mis un petit bout de temps, mais assez tôt dans la filmo de chacun, ils sont croisés déjà. Et en fait, c'est un petit peu les deux monstres ultimes du cinéma, quoi. Tu vois, c'est des gens, Tu vois, je les aime tellement. C'est des gens. c'est des personnages de toute façon. Et je pense qu'on va en reparler, qui sont hyper importants déjà dans l'histoire du cinéma tout court, quoi. Tu vois, qui ont été là extrêmement tôt, enfin l'un plus tôt que l'autre évidemment, qui sont à la fois des espèces d'immenses, tu sais, créatures fantasmées, mais qui sont aussi des gens qui accompagnent, et ça c'est intéressant, je pense qu'on y revienne après, aussi le progrès, la technologie, quoi, parce que finalement quand tu regardes, alors pour le, comme tu l'as dit, pour le bon ou pour le moins bon, et ça marche pour les deux personnages, bah on a l'impression qu'ils ont toujours été là, quoi, tu vois.
Oui.
période du cinéma, bah t'as toujours une version du personnage qui est là. Alors pas toujours la meilleure, mais bon quand même quoi. Et c'est des gens quand même qu'on réussit, des gens, j'ai redit des gens, c'est pas bien, qui ont réussi à traverser un peu leurs frontières pour aller se tester aussi sur d'autres territoires. Quoi. Tu vois, il y a vraiment une aura internationale qui est assez impressionnante. Quoi. J'ai du mal moi, hein, si on me demande à peut-être de, à savoir de, duquel je suis plus proche, mais alors pour aller dans le sens de l'émission, peut-être que je suis un peu plus Team Kong, tu vois.
Ouais.
Peut-être que c'est celui qui me ressemble le plus aussi, va savoir. il a des poils, quoi. et voilà, quoi.
Ouais.
Et moi, je suis pas rentré dans l'univers, en tout cas de Godzilla, je pense que j'ai pas, tu vois, ayant 31 ans aujourd'hui, connu forcément la meilleure porte d'entrée, tu vois.
Je vois pas de quoi tu parles, non,
mais tu vois très bien.
Mais oui, c'est vrai que King Kong est né en 1933 et finalement il est né relativement peu de temps après le cinéma.
Au final, ouais.
Et alors que Godzilla est né lui en 1954.
C'est ça.
Et il est né. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est né pour équilibrer justement, pour rendre l'appareil à King Kong. Et ce qui est drôle aussi, c'est que c'est un peu le pitch du Monsterverse de Legendary, quoi. C'est il y a des créatures géantes et d'autres créatures s'éveillent ailleurs pour restaurer l'équilibre. Ben en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. King Kong est né, la franchise King Kong est née en 33, et la Toho a décidé de créer sa franchise de monstres géants de son côté en Asie pour concurrencer King Kong. Il y a une chose amusante aussi, c'est que je pense que beaucoup de gens l'ignorent, mais probablement pas nos auditeurs parce que c'est des gens bien. C'est que ils se sont rencontrés très tôt, en fait.
Ouais. Dès le troisième film, en fait. Enfin, en tout cas, le troisième film avec King Kong, c'est King Kong versus Godzilla, déjà, quoi. Alors, ouais. Dès le deuxième film, en fait, parce que le deuxième King Kong, c'est pas un King Kong, c'est Son of Kong. Il n'y a pas King Kong, c'est donc son fils, hein, comme dit, qui est un espèce de petit trouillard, albinos, pas très impressionnant, si tu veux. Qui sera sacrifié de manière très sale, d'ailleurs, dans le film.
Ah oui, je l'ai même pas vu.
En fait, c'est son fils, albinos, il retourne sur le... C'est le fameux Carl Denham, là, le producteur de films qu'on a déjà dans le premier, qui retourne... En fait, le film est tourné uniquement, à mon avis, pour des motifs pécuniaires. Hein, c'est tourné en 33 aussi, c'est la même année, en fait.
Ah
mais
oui.
Donc, il retourne sur l'île, et puis il rencontre le fils de Kong, qui est un petit gorille albinos, enfin, un petit gorille, en tout cas moins impressionnant que son papa, et qui va tout de suite être leur ami, tu vois. Là aussi, il y a un peu le même twist qu'avec Godzilla, hein, c'est-à-dire qu'il devient assez vite l'ami des héros, et ils vont s'appuyer un peu sur lui pour un peu combattre les dangers de l'île, pour finalement le laisser mourir avec les indigènes et l'île entièrement à la fin. Je vous le spoil parce que ça vaut pas le coup, hein, vraiment pas.
Mais c'est un peu le pitch de Rampage, en fait.
C'est complète, mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment du Son of Kong dans Rampage, quoi. C'est beau.
Et du coup, c'est marrant parce que donc ils se sont rencontrés finalement à la deuxième itération de King Kong, ou troisième, enfin suivant comment on compte.
Ouais, ouais.
Et la troisième de Godzilla.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ils se sont croisés super vite, en fait.
C'est intéressant.
Ouais.
Donc comme quoi, ils étaient vraiment destinés à se foutre sur la gueule, quoi.
C'est ça.
Et bon, ils se sont recroisés une nouvelle fois cette année après avoir fait beaucoup de choses chacun de leur côté.
Leur côté, ouais. Ils se sont recroisés très récemment pour un résultat aléatoire, on dira, quoi.
Pour un film qui est, bon, n'ayons pas peur des mots, passablement à chier.
Ouais. Je pense qu'on peut clairement partir là-dessus. Ouais. Non, on va pas trop ménager, effectivement, c'est pas terrible.
C'est pas terrible.
Peut-être qu'on en reviendra un petit peu, mais non, c'est pas terrible.
Bon. Et puis je te propose qu'on s'écoute un petit. Une petite archive sonore, et puis après on va démarrer.
About this size. He is sheer brute force. While Kong is a thinking animal, his brain is considerably larger.
about 10 times the size of this gorilla's skull. Being instinctive rivals, there's no doubt that they will attack.
Oui, c'est un film où on parle de la taille du cerveau de Godzilla.
Bien sûr.
Ah. Ce qui est bien, c'est qu'on découvre que le pitch du Godzilla contre King Kong 62
ouais.
n'était pas moins con que celui de, de 2021.
Je sais pas, ça se discute quoi, mais en tout cas, c'est 2021 est quand même particulièrement con. Et il réalise l'exploit de faire passer vraiment Godzilla pour le dernier des connards quoi. Donc voilà.
Après en avoir fait un héros en 2014.
C'est ça, bah, ils en ont quand même fait une enflure suprême quoi.
Bon, pourquoi pas après tout.
Hein. Oui, c'est vrai.
Alors, le premier round, dans ce premier round, on va se poser la question suivante. Qui est le plus connu ?
Ouais.
Alors, ça peut s'interpréter de plein de façons différentes, mais toi, instinctivement, tu dirais que qui est le plus connu ?
C'est super dur, mais... écoute, j'aurais tendance à dire Kong,
ouais.
Là, comme ça. Hein, mais vraiment, je pense que c'est un petit peu orienté comme réponse. parce qu'il y a une histoire de prisme, encore une fois. Tu sais, dans le sens où King Kong est une créature complètement américaine, pour le coup, et là où Godzilla est plutôt issu d'un héritage bah, évidemment japonais, et en plus j'aurais tendance à dire ça, parce que Godzilla, je pense que dans les premiers temps, hein, je veux dire, tu vois, aujourd'hui, peut-être que la réponse n'est pas la même, quoi, mais Godzilla, dans les premiers temps, c'est vraiment un personnage qui est basé sur quelque chose de très culturel, de très autocentré, finalement. C'est-à-dire que c'est une vraie réponse, alors aussi, évidemment, à King Kong, mais qui est aussi basé sur un vrai trauma... tu vois, national, voire continental, quoi.
Oui.
Parce que Godzilla, c'est le symbolisme absolu de la peur de la bombe nucléaire, tu vois, de la bombe atomique, quoi. Alors que King Kong, c'est un vrai personnage de cinéma, en fait. C'est un vrai truc qui est au service de la stop motion, tu vois. C'est un vrai personnage fantasmé qui est pas forcément issu d'une malheureuse expérience, on va dire, nationale, quoi. Moi, dans l'ensemble, j'aurais plutôt tendance à dire Kong, d'autant plus que j'ai quand même l'impression... Alors après, ça, c'est peut-être encore une fois, parce que moi, j'ai pas vraiment connu... Bah toi non plus, tu me diras, hein, t'étais pas là, hein, t'étais pas dans les années 50, c'est à moins que je me trompe, mais...
Non.
Mais disons que avant peut-être l'épisode Roland Emmerich, je sais pas si Godzilla avait cette popularité-là, tu vois, parce qu'on peut pas lui enlever un truc à ce Godzilla 98, alors peut-être qu'on lui reprochera plein d'autres choses ensuite, c'est qu'il a quand même fait découvrir le personnage à énormément de monde, dont moi, tu vois. Alors peut-être d'une mauvaise manière, puisque c'est évidemment pas le Godzilla le plus représentatif de ce qu'il est, quoi, mais mine de rien, je pense que c'est un film qui a eu son petit effet sur les gens de ma génération, tu vois.
Oui, alors en Europe, je pense que oui.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est différent.
Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, pour le coup, Godzilla est un personnage vraiment important dans la pop culture depuis très 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 longtemps, quoi. Puisque tous les, je pense que tous ou presque tous les Godzilla sont sortis aux États-Unis. C'était alors dans des versions dégueulasses avec des inserts avec des acteurs américains qui étaient filmés en champ contre champ pour commenter l'action, etc. Donc il y a tout un tas de versions américaines des films de Godzilla qui diffèrent des montages originaux. Oui, voilà, exactement. Et donc pour le coup, Godzilla est un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on a sur les films de kung-fu aux États-Unis, quoi. C'était une vraie star de vidéo club et de cinéma de quartier, quoi. Et donc et de drive-in, quoi, pas de cinéma de quartier. Je pense qu'il était vraiment très populaire déjà aux États-Unis avant que Godzilla 98 sorte. Alors moi j'ai beaucoup fréquenté des groupes Facebook de fans de Godzilla américains. Ouais. Et tu sens qu'effectivement il y a une vraie passion, que le personnage est très connu. En Europe, effectivement, il y avait très peu de versions qui étaient disponibles, en fait. Je pense que les d'ailleurs.
En fait, j'ai mis du temps à les voir, et pour l'anecdote, le premier vrai, par exemple, Blu-ray format HD avec le montage original, je crois que c'est Christophe Gans qui le sort, tu vois. Godzilla de Ishiro Honda, je crois que c'est HK Vidéo.
Ah, je sais même pas. Oui, c'est
Trinity.
C'est vrai.
La première fois qu'il sort, donc c'est relativement tardif en plus. Hein.
Oui, oui. Et là, c'est confidentiel en plus.
En plus, c'est confidentiel et d'ailleurs, c'est tellement confidentiel qu'aujourd'hui, pour le remettre la main dessus, faut spéculer comme un dingue. Mm-hmm. Mais tu vois, c'est la première fois. Alors, faudrait retrouver j'ai pas la date exacte du Blu-ray, mais je sais que les Blu-ray HK vidéo, tu vois, c'est pas un truc qui date d'il y a très longtemps. Et c'est la première fois qu'on avait en version HD, en version correcte, un montage japonais qui était pas, justement, comme tu disais, charcuté de partout, quoi.
Ouais, il y avait eu, dans les années 2000, il y avait eu quelques éditions. J'ai oublié le nom de l'éditeur, un éditeur qui je crois n'existe plus maintenant. Il y avait eu un certain nombre de Godzilla qui étaient sortis en DVD, mais bon, dans des versions. Alors au moins c'était le montage original et en VO, c'est déjà pas mal, mais avec des formats pas très glorieux, sans restauration, enfin des trucs pas terribles. J'en ai quelques-uns à la maison, bon, je suis assez content, c'est déjà pas mal, mais ouais, il y a c'est voilà, bon, en France c'était pas très connu effectivement. Bah,
après tu peux même te dire qu'aujourd'hui Shin Godzilla, qui est peut-être un des films les plus brillants de la franchise, en tout cas le meilleur contemporain, n'existe même pas.
Ouais, c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou.
Ouais, c'est fou.
Je trouve que c'est partout autour de nous en Europe, il y a des versions, mais en France on n'a pas. Donc voilà.
Mais écoute, en France on n'aime pas le succès.
On n'aime pas les gens qui réussissent.
Et ça s'applique à Godzilla.
Effectivement.
Donc ouais, écoute, après en termes de box-office, c'est un peu injuste de les comparer, mais on va le faire quand même.
Parce qu'on aime bien les trucs injustes. C'est injuste comme duel, si on cherche, tu vois. En termes physiques, déjà, c'est injuste.
Alors ouais, on va y revenir.
Je sais bien.
Mais c'est assez injuste. mais Godzilla, c'est 36 films.
Ouais.
Alors que King Kong, c'est... En vrai, de vrai film, c'est quoi, c'est 5 films.
En vrai film King Kong, c'est où il apparaît vraiment, c'est je dirais une dizaine quand même de tête. C'est une dizaine, ouais. Je pense que c'est une dizaine. Si on compte King Kong ou Godzilla, c'est une dizaine. Je compte les derniers.
Je compte les films d'animation aussi.
Je compte que les lives.
Parce qu'il y a deux, il y a eu Suite 76, Suite 86.
Si on compte Godzilla vs Kong, il y en a 9 exactement.
Ouais.
Il y a King Kong contre Godzilla, il y a la revanche de King Kong, ensuite il y a les King Kong de Laurentiis, donc il y en a deux, il y a celui de Peter Jackson, et puis il y a les deux derniers, quoi. Donc je crois que ça fait 9.
Ouais, d'accord.
Voilà, tu vois. En gros, hein. Après, évidemment, il y a aussi les DTV là, animés de Warner. Ouais. Un truc que j'ai connu d'ailleurs aussi quand j'étais gamin, parce que c'est sorti à peu près au même moment que Godzilla. Et voilà quoi. Après, il y a une tonne de rip-off un peu pété, tu vois, notamment Hong Kong, le fameux colosse de Hong Kong là, qui était un essai de je sais pas comment on pourrait définir ça, un kaiju pian peut-être, qui est un truc d'ailleurs qui s'est soldé par le fait qu'il n'y ait jamais eu d'autres essais derrière, donc ça voulait bien dire ce que je veux dire. Il y a une version familiale aussi qui s'appelle Monsieur Joe. C'est mon ami Joe, qui était réalisé aussi par les mêmes réals que le King Kong de 33, hein, c'est Cooper et Chuck, qui a été remaké d'ailleurs en 98. Grande année du film de monstre. Hein. donc il y a une tonne de rip-off, parce qu'après, King Kong, au-delà d'être King Kong, c'est aussi un modèle, j'ai l'impression, pour tous les films de singes derrière. Évidemment, oui. C'est la référence ultime du singe à grande échelle, quoi.
Ouais.
Au point où on le retrouve dans Ready Player One en 2018. Il a même un rôle important. Voilà.
Mais il y a aussi Godzilla, enfin.
Ouais, Mecha Godzilla. Donc ça compte pas trop. Mais ça compte un peu.
oui. En fait, et le truc marrant, c'est que finalement, la plupart des apparitions de King Kong, c'est soit dans des, soit dans un univers partagé avec Godzilla, soit avec Godzilla.
Ouais, tu veux dire. Dans ses apparitions, tu veux dire comment ça ?
En film, en fait, la plupart des films, finalement, il n'y a que deux. Je suis en train de réfléchir, il y a. Enfin, la plupart. En fait, il y a presque autant de. Oui, parce qu'il y a en
il y a
film.
Il y a à peu près, ouais. Je dis, en film partagé, il y en a. Allez, on va dire. Au final, il n'y en a que trois, hein, qui sont dans un univers partagé, vraiment.
Non, il y en a quatre. Ah, puisqu'il y a le tout premier King Kong contre Godzilla en 62.
Ah oui.
Il y a King Kong, la revanche de King Kong. Enfin,
oui, c'est
non,
vrai,
King,
j'avais
King
oublié
Kong Escapes.
Ouais,
avec,
bah oui,
avec Mechani Kong.
Effectivement. Des grandes idées. Et effectivement, après... il y a Skull Island qu'on peut compter comme un univers partagé puisqu'il fait partie du Monsterverse et voilà, évidemment Godzilla versus Kong, quoi. Effectivement.
Donc finalement, c'est fou quand on y pense, quoi.
Finalement, il a plus de mal à exister seul.
Ouais, c'est.
Après,
c'est
drôle. Si tu veux parler de Godzilla, c'est pareil. Enfin, il y a combien de films qui font partie d'un espèce d'univers partagé, c'est pareil, quoi.
Oui, mais lui, c'est le sien. C'est son. Ouais. C'est, son, c'est, son c'est le Godzillaverse.
Ouais, d'accord.
Non, mais c'est vrai. Il joue à domicile à chaque fois.
C'est vrai, hein, t'as raison.
Alors, effectivement, je pense que finalement, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Godzilla est plus connu au Japon que King Kong aux États-Unis? Difficile à dire, impossible à dire, même, je pense.
Alors, après, sinon, la question, tu peux l'inverser, c'est est-ce que Godzilla est plus connu aux États-Unis que King Kong est connu au Japon, en fait, quelque part.
Je pense que oui.
Je pense que oui. Bon, pour le coup, je pense que Godzilla est plus populaire au Japon, aux États-Unis que King Kong est au Japon, sans trop de débat.
Ouais.
Je sais pas si... Moi, j'ai pas côtoyé de groupe de fans, tu vois, mais je suis pas sûr qu'il y ait des fans... je sais pas s'il y a des groupes de fans de King Kong japonais, tu vois. Faudrait que tu creuses ça. mais écoute, je pense qu'en termes de chauvinisme, je suis pas sûr. Mais ouais. Non, je pense que la popularité de Godzilla surpasse celle de certainement de Kong, en tout cas sur le territoire américain. Tu vois, enfin, en tout cas, c'est inverse un peu les prismes, quoi. C'est sûr.
Ouais.
Bon, bah, du coup, peut-être que j'ai tendance à parler de Kong de par son importance un peu plus dans la grande histoire, on va dire, du cinéma, quoi. Tu vois. Mais voilà.
Oui.
Mais d'un autre côté, il y a plus de films. Il y a après en termes de box-office, on en parlait un tout petit peu en off avant. On va dire sur les grosses sorties parce qu'on ne regarde pas forcément, je pense, le box-office de tous les trucs un peu mineurs. Mais sur les gros films, ça se voit à peu près en fait. Hein.
Oui, on a oublié de le dire, mais effectivement, c'est à peu près équivalent.
Ouais.
Mais Godzilla a eu beaucoup plus d'apparitions, donc en volume global, il a plus de box-office parce qu'il a fait beaucoup plus de films.
Mais après, Godzilla, d'un point de vue strictement statistique, je pense qu'il a plus de films à succès que Kong. Tu vois, ouais. Je pense que le Godzilla de Emmerich marche pas mal, malgré le fait que ça soit un film extrêmement cher pour son époque. Le Godzilla de Gareth Edwards, alors ça, c'est compliqué d'interpréter les résultats. Il rapporte un peu d'argent et je pense qu'il a un box-office international qui est relativement important quand même. Donc déjà, tu vois, t'as cela. Alors celui de Laurentiis marche pas bien quand il sort en salle, il marche plutôt à la télé. Le King Kong 2 est une foirade autant artistique qu'économique, même si je l'aime pour de mauvaises raisons. Oui, et par contre, aussi. Le King Kong de Peter Jackson marche vraiment très bien.
Oui. Bon, et alors, à qui est-ce qu'on donne un point ou est-ce qu'on fait un match nul?
Ah, ça franchement, si je dois choisir, moi, là, pour le coup, je fais match nul. J'ai du mal à... Ouais. Mais après, c'est toi qui vois. Hein.
Non, je suis d'accord pour le match nul.
Ouais.
Je suis d'accord pour le match nul. Et puis, il faut quand même que Godzilla laisse un peu ce pauvre Kong respirer. On peut pas le piétiner tout de suite, quoi. Je vous propose qu'on passe au round suivant.
Allez.
Qui était la question, qui est le plus gentil?
Alors, ça c'est pareil, ça joue sur plusieurs périodes cette histoire.
Ouais.
Alors moi je pense que la différence, quand même, c'est que Kong n'est jamais fondamentalement méchant. Ça n'arrive jamais. Tu vois? Dans le sens où c'est un animal, tu vois, Kong c'est quand même un mec sympa finalement.
Quand même, dans la version de 33, j'ai été étonné à quel point il est brutal. Hein.
Il est brutal, mais parce que, tu vois, il est perdu, il est un peu agressé par l'arrivée de la civilisation, tu vois, c'est un truc vachement symbolique, finalement. C'est quand même un animal qu'on va chercher, tu vois, bon, ok, on fait les sacrifices et tout.
Il est assez vénère avec les indigènes, quand même.
Il est vénère avec les indigènes, c'est vrai, mais après, on connaît pas forcément le passif, tu vois. mais il est sympa avec Andaru, tu vois.
Oui.
C'est quand même King Kong, il vit des histoires d'amour, tu vois, platonique. Mais Godzilla, moins.
plus ou moins platonique.
Oui, non, d'ailleurs, c'est incroyable que cette scène du King Kong de 33 où il commence à la déshabiller, là, tu sais, en pleine période Codays, il l'est pas coupé, quoi. C'est une grande interrogation qui traîne autour du film, quoi.
Mais dans la version 76, c'est pire, en fait, parce que...
Ah bah oui, mais là, dans la version de 76, Jessica Lange, elle était aussi là pour la caution un peu adolescente du film, je pense, tu vois. Puis en sachant que c'est une prod d'Ino De Laurentiis, il y a forcément un truc un peu lubrique derrière, quoi.
Bah, enfin, je veux dire, il y a cette scène où il lui arrache carrément son haut, quoi.
Ouais, complètement. Mais déjà, dans celui de 33, mine de rien, par rapport aux mœurs de l'époque, c'est relativement osé, tu vois, en termes d'érotisme, on va dire.
En fait, j'ai toujours... Non, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai revu, du coup, tous ces films récemment,
ouais.
Vus ou revus, d'ailleurs, parce que je les avais pas forcément tous vus, et... Et j'ai l'impression que King Kong a une... King Kong est un personnage beaucoup plus anthropomorphisé, je sais pas si ça se dit.
Bah, déjà, c'est un singe.
Donc déjà, c'est un singe. Et donc, en plus, on projette quand même beaucoup de choses très humaines sur lui.
Bah, clairement.
Là où Godzilla est principalement une force de la nature.
Bah, ouais, et puis Godzilla, c'est un personnage qui est fondamentalement déifié, en fait.
Oui.
Dans ses origines. Oui. Parce que, ok, il est réveillé par la... Alors ça dépend de la version, tu vois, mais il est réveillé soit par la bombe atomique, soit par Jacques Chirac dans le Pacifique, quoi. Mais bon, dans tous les cas, c'est quelque chose de fondamentalement, en fait, quasiment, tu sais, qui dépasse l'humanité, qui dépasse l'entendement, en fait.
Oui, complètement.
C'est une créature mythologique. King Kong, c'est pas tout à fait ça. C'est un singe d'une taille effectivement gigantesque. Ça reste quand même un animal, finalement. Et King Kong, il est quand même toujours présenté comme une victime, finalement.
Ouais,
c'est tragique ce qui lui arrive.
Et c'est toujours tragique, ouais.
Il y a une certaine innocence qui se dégage de King Kong. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les premiers Godzilla, où c'est, ça reste une créature un peu démoniaque, finalement.
Alors, je pense que ça peut paraître démoniaque avec un point de vue qui est le nôtre.
Mm-hmm.
Mais je pense que ça reste effectivement surtout une créature divine, avant toute chose.
Oh, c'est ça, ouais.
Et d'ailleurs... À chaque fois que Godzilla... alors, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque reboot de Godzilla, c'est la même limonade. C'est que t'as toujours un premier Godzilla qui est un peu sérieux, t'sais, un peu... voilà, ça. C'est, on essaye vraiment de montrer, de faire des métaphores et tout. Puis dès le deuxième, ça devient n'importe quoi et c'est du catch.
T'as un peu raison, t'as complètement raison, d'autant plus qu'on est en période Monsterverse, voilà, où je pense que c'est plus un problème de studio.
Ouais.
C'est-à-dire que le ton que je trouvais assez parfait dans celui de Gareth Edwards, ben je pense que la frustration de certains aura pas mal pesé dans la balance, finalement. Et que donc, à partir de là, il a fallu faire un Godzilla King of Monsters où on rajoute un peu aux chausse-pieds le maximum de monstres sous licence, si tu veux, pour les faire se friter, quoi.
Oui, oui. Alors, ce qui, moi, me satisfait, hein, à titre personnel. Mais
bah, après, oui. Mais peut-être voilà, que tu fais partie des gens qui ont plus ou moins influencé cette direction, je ne sais pas.
C'est possible. mais d'un point de vue cinématographique, c'est peut-être un peu moins riche.
En tout cas, il y a peut-être plus de films du côté de Kong qu'une symbolique forte. En tout cas, il y a évidemment le premier et au moins celui de Peter Jackson.
Mais le problème, c'est que c'est trois fois la même histoire quand même.
Ah, mais après, voilà, il y a des authentiques remakes de King Kong. C'est pas un reboot, celui de Jackson, c'est un remake qui reprend exactement la même trame au point de rajouter dans son montage des scènes qui avaient été coupées dans celui de 33. Tu vois.
Par exemple, pas ça.
La scène de, tu sais, du ravin. Avec les insectes qui sortent et qui commencent à bouffer tout le monde. En fait, c'est une scène qui était dans le King Kong de 33, mais justement qui avait été coupée parce que le fameux Codays l'avait classifié comme trop cruel.
Ah, ok, d'accord.
Donc Peter Jackson, en fait, il pousse le vice, parce que c'est son film préféré, de rajouter cette scène dans sa version.
D'accord, mais parce sinon, que moi, j'ai directement vu la version où il y avait le ravin, en fait.
D'accord.
La version de 33.
Ouais,
je ne savais pas qu'elle n'y était pas dans le montage
elle
original.
Elle était coupée dans le montage original, elle a été déterrée, je ne sais plus quand exactement.
Ah,
mais
okay.
À l'origine, elle était coupée. Et, ouais, et c'est pour ça que Jackson la met dedans, en fait. C'est un espèce de clin d'œil. Parce qu'au final, le film de Peter Jackson, même s'il rajoute énormément de choses qui sont parfois un peu stériles, voilà, bon, on en pense qu'on veut. Parce que le film dure 3 heures, alors qu'à l'origine, il devait en durer, je ne sais pas, 1h20, 1h30, je ne sais plus. Finalement, c'est complètement la même trame, c'est exactement les mêmes personnages. Ce qui n'est pas vraiment le cas du reboot Legendary de Godzilla, où on ne retrouve pas spécifiquement. Bah déjà, les personnages japonais sont un peu éludés de l'équation, quoi. Puisqu'on va se concentrer sur des Américains, pour le coup, dans le premier.
Ouais, il y a Ken Watanabe qui fait un peu de...
Ouais, il y a Ken Watanabe, mais tu vois, c'est la caution, quoi.
Mais en plus, il a le même nom que le personnage de... Le personnage de... Enfin, Seri Zawa, qui est un personnage ouais. important dans le...
Évidemment.
Dans le premier Godzilla. Mais ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement... bon, King Kong est... En tout cas, on a un autre point après. Mais ouais, vas-y.
Non, en tout cas, je disais par rapport à la gentillesse ou peut-être à l'innocence... déjà, King Kong fait pas de dégâts. Il fait moins de dégâts déjà
en
termes de quand il se retrouve. Alors, il passe moins de temps en ville. Il passe moins de temps en ville parce que c'est juste un peu pour le baroud d'honneur, tu vois.
Ouais.
Si on accepte Godzilla versus Kong, du coup, mais les deux versions. Mm. Mais il fait moins de dégâts, on va dire volontaires, je pense.
Ouais.
Lui, il fait du dégât quand il panique et qu'il essaie de s'enfuir. Tu vois, Godzilla, il est là pour te défoncer, quoi.
Ouais, alors ça dépend les versions, justement.
Non, mais la première version, tu vois.
C'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui est marrant avec Godzilla, c'est qu'il a connu beaucoup de destins différents. Au début, il était une force de la nature qui pétait tout et qui était là juste pour personnifier la colère de la nature de s'être fait maltraiter par la bombe atomique. Et puis après, petit à petit, ça a glissé et jusqu'à ce qu'il devienne l'ami des enfants et que jusqu'à ce qu'il devienne carrément dans un film le copain d'un petit enfant qui se faisait maltraiter par des bullies à l'école. Quoi.
C'est vrai que par contre, pour contrebalancer le truc, King Kong n'est jamais à proprement parler l'ami des enfants ou des humains. Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu le même trope, mais il est jamais complètement utilisé comme... Alors, si, peut-être dans le dernier, justement, là, où il commence à être l'ami des enfants. En tout cas,
oui,
du enfant.
Vrai.
Où il parle carrément en langage des signes avec, enfin, on en est là, quoi. Mais c'est très la planète des singes, tu sais, comme truc, là. Mais non, c'est vrai que sinon, c'est juste un animal, en fait.
Un animal lubrique.
Un animal lubrique, non, mais un animal, quoi.
Oui. Un singe, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, oui, avec tous les sous-entendus que ça peut, peut y avoir.
Évidemment.
C'est-à-dire que d'un côté, on a une force de la nature qui détruit tout, mais c'est une force de la nature, finalement. Est-ce que les tremblements de terre sont méchants, enfin, voilà.
Non, c'est sûr. Mais est-ce que les singes sont méchants? Je sais pas non plus.
Non. Mais voilà, il y en a un qui pète tout et l'autre qui lubrique. Je sais pas.
Écoute,
j'ai du mal à décider.
Ça se recoupe quelque part. Mais je sais pas. Écoute, moi, le plus gentil, c'est compliqué comme question, sachant que Godzilla était vraiment gentil et caractérisé comme gentil dans sa seconde période, on va dire, quoi.
Mm.
Et que King Kong, c'est pas véritablement de la gentillesse, c'est juste un animal, tu vois. Le Godzilla le plus proche de King Kong. Qui reste un personnage qui évolue pas tant que ça, je trouve, au fur et à mesure des années. C'est presque le Godzilla de 98, en fait, justement, qui est utilisé comme étant un animal, un gros lézard, un peu paumé, tu vois, qui fait des dégâts pas spécifiquement volontaires, puisque d'ailleurs, on tente à un moment de se rapprocher de lui et ça marche presque. En fait, il fait que se défendre. Donc, en fait, c'est presque le plus proche. Parce que lui, c'est juste un animal, il a aucune volonté de se venger déjà d'un trauma, tu vois, d'être le symbole d'une peur, pas du tout, quoi. Donc écoute, là, je te laisserai le mot de la fin, si tu veux. parce que j'ai aucune putain d'idée. Moi, je dis Kong pour le plus faible impact collatéral en termes de dégâts. Voilà.
Écoute, je regarde les rounds suivants et je suis en train de me dire si...
Ah ouais, d'accord, on en est à une espèce d'arrangement.
Je suis encore en train de truquer, tu sais.
Ouais, je comprends, mais c'est normal.
Tu sais comment ça marche par ici.
Les combats pas truqués, de toute façon, c'est pas les combats. Est-ce que tu savais, tiens, je me permets de placer un truc qui me fait beaucoup rire. Est-ce que tu savais que l'actrice originale de King Kong, qui est Fay Wray, est-ce que tu savais qu'on lui a vendu le projet en lui disant qu'elle allait jouer avec un grand acteur?
Ah non, je savais pas.
On lui a dit qu'elle allait jouer avec un grand acteur. et en fait, il y a des déclarations qui sont sorties où elle a tout de suite pensé qu'elle allait jouer avec Clark Gable. Elle avait misé sur Clark Gable, sauf qu'il lui avait pas dit que c'était un grand acteur au sens littéral du terme.
Quoi. Ah, c'est chiant.
Je pense, ouais.
C'est un bon trivia, ça.
Ouais, c'est pas mal.
Écoute, j'arrive pas à les départager, donc...
Bah écoute, sinon on fait un deuxième
encore,
match nul.
Encore match nul, hein, voilà, c'est comme ça.
Voilà, c'est
de toute façon, c'est un combat serré. Hein.
Ouais, je pense. Ah, c'est des monstres sacrés. Hein.
It is 1976. The American merchant vessel Petrox Explorer has just set sail from the port of Surabaya in search of oil. What they find will shock the world.
We may be sailing into the history books.
She's alive!
You know, maybe my luck has changed.
They will discover an uncharted island that is the home of the most incredible creature on the face of the earth. A creature called Kong. Dino De Laurentiis presents the most exciting original motion picture event of all time. King Kong. King Kong, a fantastic adventure.
Passons au
round suivant. Sur les prochains, on va pouvoir, je pense, délimiter.
Ouais, on va y arriver.
C'est obligatoire.
On va y arriver. Alors là, le round suivant, c'est qui a joué dans le moins pire film ?
Ce qui est difficile comme question.
Donc, ce qui revient à dire qui a joué dans le pire film.
Bah, ouais, ou alors qui a joué dans le moins pire des pires films. Ça,
oui, voilà.
Donc, il faut définir le pire film pour chacun.
Alors, quel est le pire quel est le pire Godzilla et quel est le pire King Kong selon toi ?
Alors je pense assez facilement définir le pire Kong. Je pense que c'est King Kong 2 de
celui de 86.
Ouais, de John Guillermin, produit par Dino De Laurentiis, qui est un film que j'aime beaucoup. Hein, où King Kong se trouve une femelle qui se maquille. Ils copulent ensemble, à un moment il lui met même un doigt dans le cul, enfin, c'est vraiment très littéral comme truc. C'est un film où King Kong est quasi mort depuis 10 ans, il est dans le coma et donc il doit lui greffer un gigantesque cœur mécanique. Voilà, t'as une espèce d'histoire d'amour qui se développe et pendant le même temps t'as Linda Hamilton qui tombe amoureuse d'un espèce de chercheur là, d'explorateur, et d'ailleurs ils vont copuler ensemble en même temps que King Kong et sa femelle, quasiment sur le même plan, ce qui est assez incroyable quoi. Donc, c'est un film complètement improbable que j'aime pour de mauvaises raisons certainement, enfin, ou alors pour de très bonnes raisons, ça je sais pas.
Ouais.
Et qui voilà, une sorte d'énorme foirade de drôle quoi, tu vois. C'est un vrai nanar, je pense, King Kong 2, parce qu'en plus c'est traité d'une manière extrêmement sérieuse. Ce qui fait que du coup c'est extrêmement drôle. J'ai plus de mal à définir le pire Godzilla. Alors peut-être que ça c'est plus ton boulot. Je sais pas. Il y a Final Wars que je trouve bien pété.
Ouais.
Je sais pas si les gens le détestent tant que ça d'ailleurs.
Alors moi je le déteste, mais ça c'est un peu le je sais pas comment dire. J'allais dire le Ready Player One, mais c'est...
Pas avec moi, monsieur, pas avec moi.
Mais je vais pas dire ça. En plus, c'est même pas vrai, donc non, je retire. Non, c'est... Ouais, bon, je sais pas. C'était un film qui était fait aussi pour se marrer, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais au moins, il a l'avantage de détruire le Godzilla de Roland Emmerich. Dans le
oui, c'est vrai. Alors, tu sais que techniquement, c'est pas le Godzilla de Roland Emmerich. Enfin,
non, mais bon, c'est...
Ils ont fait en sorte que... Bon, d'éviter l'incident diplomatique.
Et tout le monde l'a vu.
Et tout le monde l'a vu, ouais.
C'est sûr.
Mais d'ailleurs, il y a un autre film où il y a une référence sur un autre Godzilla des années 2000 où il y a une référence au Emmerich assez vénère. Ça,
ah ouais ?
C'est assez drôle. Ouais, c'est un dialogue. Je me souviens plus exactement, mais c'est un dialogue entre deux personnages où ils disent non, mais ça c'était. Ah oui, t'as entendu, il y a un lézard qui a pété. Qui a détruit New York. Ah oui, mais c'est pas Godzilla.
Oui, c'est ça. Mais écoute, je sais pas, parce que sur les 36 films, lequel est vraiment le pire en fait ?
Alors, moi, ce que je déteste le plus, c'est les animés de Netflix.
Ah oui, je les ai vus il y a très longtemps, alors j'en ai pas de souvenir.
J'ai trouvé ça très, très, très pénible en fait. C'est
des gros trucs en plusieurs parties là.
Ça se prend très au sérieux, c'est très. Je trouve ça très pénible. Je trouve ça même encore plus pénible à regarder que le 98 qui...
Ça se passe dans quel timeline, ce truc ?
Dans le futur.
Ah oui, d'accord. Ok. Bah écoute, parce que en fait, le nanar de luxe qui correspond à King Kong 2, c'est quoi? C'est Godzilla de Roland Emmerich? Non, c'est ça que tu vas me dire?
Mais en fait, le ça se trouve, le pire Godzilla est aussi le pire Kong, hein, c'est peut-être Kong contre Godzilla, hein, de 2021.
Oui. Et encore, t'aimes bien celui de 62?
Oh, bah... C'est du Showa, c'est du Godzilla période Showa.
Ouais, c'est parce que c'est Ishiro Honda, quoi. C'est ce que tu vas me dire. D'accord.
Non, même pas. C'est... Non, mais bon, tu vois, c'était une certaine époque. Enfin, disons que c'était après... une époque où on n'en avait rien à foutre de rien et on est... voilà, c'était fait avec une certaine bienveillance.
Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors
non,
que
c'est pas un très bon film.
Alors,
c'est vrai, c'est
alors
bon
que
film.
Le cynisme de Godzilla vs Kong est pour le coup beaucoup plus abject. Mais effectivement, c'est peut-être le pire film, ce qui serait un peu dommage d'ailleurs, encore une fois, pour le point qu'on est en train de
donner. Mais du coup, on l'élimine de l'équation.
Ouais, bon, on l'élimine de l'équation, mais c'est vraiment nul. On pourra peut-être en reparler avant, mais c'est vraiment nul. Voilà. C'est ce film quand même où Godzilla fait des rictus et des regards caméra quand il arrive à mettre un coup de souffle atomique à King Kong, quoi. Vraiment, tu vois, t'as un close-up avec Godzilla qui fait presque un sourire, là. Donc, on
va bien. Oui. Si avec ça.
Si, oui, non, mais voilà. C'est quand même absolument dégueulasse.
En fait, on va dire que le pire Godzilla. Bon, allez, on va pas être trop original. On va dire que le pire Godzilla, c'est Godzilla 98.
Bon, d'accord.
Principalement parce que c'est un coup de poignard dans le dos assez gigantesque à ce pauvre Godzilla. Et
et on met King Kong 2 en face. Alors après, c'est des choses qui se discutent, hein, mais moi c'est un truc, c'est vraiment un avis perso.
Je suis assez d'accord, hein.
Mais dans ces cas-là, moi je serais complètement Team Godzilla. Je trouve que ça reste un bien meilleur film sur plein d'aspects. Non, mais vraiment,
le 98.
Ah oui, ah bah par rapport à King Kong 2, il y a pas photo. Ah, déjà, il a l'avantage quand même d'être vachement en avance technologiquement sur son temps. Ça, je continuerai de dire que c'est pas du tout un film foiré technologiquement.
Non, c'est vrai.
98, c'est même complètement l'inverse, hein, je veux dire.
Il y a même une scène de Godzilla 98 que j'aime vraiment.
Ouais.
C'est évidemment la poursuite en hélicoptère.
Ouais,
que je trouve vraiment réussie, quoi.
Bien sûr. Alors, il y a des choses qui sont innommables dans le film, notamment le segment du Madison Square Garden, qui est un vrai rip-off de Jurassic Park, quoi, tu vois, avec les bébés Godzilla. Ce qui est ça, oui. D'ailleurs, même Dean Devlin, le scénariste, s'est excusé, hein, de. Ouais, il s'est vraiment excusé. Hein. Et d'ailleurs, il a passé tout le reste de sa vie à s'excuser de ce film. C'est assez terrible, quoi. Parce qu'en fait, l'histoire est compliquée de Godzilla de Roland Emmerich. Voilà, c'est juste que c'est.
Oui, c'est vrai.
Roland Emmerich se retrouve plus ou moins forcé à le faire parce que son scénariste, Dean Devlin, qui avait scénarisé déjà Stargate Independence Day, lui est un vrai fan de kaiju. Tu vois, certainement un mec avec qui t'as dû traîner sur les groupes Facebook.
C'est possible
qu'il soit là. Tu vois. Et voilà, donc il essaie de trouver une manière de faire. En tout cas, d'intéresser Roland Emmerich au mythe Godzilla, parce que Roland Emmerich, je pense qu'à à part péter des trucs à grande échelle, il y a pas grand chose qui l'intéressait, quoi. Et donc du coup, ils essayent un petit peu de s'accorder ensemble pour réaliser un film, alors que Roland Emmerich se fout complètement de Godzilla, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de concessions qui sont faites sur le scénario, que c'est aussi pour ça qu'on essaye de lui donner une dimension plus humaine, parce que c'est aussi ce film-là où on anthropomorphise le plus, je pense, Godzilla, en fait. Hein.
Oui, c'est vrai.
Où, tu sais, à un moment, ils essayent un peu de faire un Miami, ça marche presque, quand ils l'attirent avec du poisson, là. Et après, ils se touchent presque avec Matthew Broderick, là. Et qui lui redonne une dimension, pareil, plus animale, plus proche de l'humain, quoi. Déjà, il est beaucoup moins grand et beaucoup moins impressionnant. Même si je trouve pas son design atroce, hein, bien qu'il soit complètement issu d'un espèce de blockbuster post Jurassic Park, quoi, on va dire. Il ressemble beaucoup plus à un dinosaure, au final, qu'à un espèce de monstre mythologique, comme on disait, quoi.
Oui, complètement, ouais. D'ailleurs, la version Godzilla Animal de compagnie, ce sera dans le dessin animé.
Ouais, dans l'animé qui suit directement le film, en fait, parce que c'est ça, c'est l'œuf. En gros, c'est ça, c'est l'œuf qu'on voit dans le dernier plan du Godzilla. Va donner le Godzilla Animal de compagnie de la série animée, quoi.
Ouais.
Mais non, je trouve que c'est un bien meilleur film. Roland Emmerich, c'est pas un mec que j'apprécie énormément, mais on peut pas lui enlever qu'il a été plusieurs fois dans sa carrière, dans cette période-là, en tout cas, en avance sur son temps, notamment en termes technologiques, quoi, tu vois. Même Independence Day est un film qui est quand même en avance sur son temps, qui a pas vraiment vieilli aujourd'hui. Voilà, les effets spéciaux sont toujours carrément acceptables, quoi. tu vois. Et c'est pareil, dans Godzilla, il n'avait pas encore sombré dans cette espèce d'obsession du numérique qu'il a maintenant. Ce qui fait qu'il utilise encore vachement d'animatronique et que le mariage animatronique et numérique, et full numérique, on va dire, en général, c'est quelque chose qui fonctionne quand c'est bien fait. Et pour le coup, c'est assez bien fait.
Ouais.
Donc je pense que c'est un meilleur film que King Kong 2. Mais après, si vous voulez passer une bonne soirée, je vous renverrai plutôt voir King Kong 2 quand même. Parce que moi, ce qui me marrait beaucoup plus quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est un film où on amène un cœur géant, un cœur mécanique géant au-dessus de King Kong avec une grue.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, il y a quelques héritages dans King Kong 2 du travail qui a été réalisé avant. Tu vois, par exemple, t'as le monstre géant que Carlo Rambaldi avait fait pour le King Kong de 67, justement. Qui est un Kong qui est construit à l'échelle, en fait. C'est un espèce d'immense automate qu'ils ont mis je ne sais combien de temps à construire, qu'a demandé des ressources pas possibles, pour que finalement ils se rendent compte que ça fonctionne pas. et du coup, ils utilisent une seule chose, c'est son bras. En fait, les seuls plans du King Kong de Carlo Rambaldi, c'est des plans où on voit, par exemple, dans celui de 67, Jessica Lange sur le bras de Kong, tu sais. Et c'est des plans qui sont vachement réussis d'ailleurs, parce que le monstre est vraiment bien. Et il le réutilise de temps en temps sur quelques plans dans le King Kong 2, tu vois. Donc il y a un petit héritage, on va dire historique, des grands artisans, tu vois, du cinéma, quoi. Mais quand même, c'est pas un film extrêmement important, quand même, quoi. Mais bon, il est drôle, il est vraiment très drôle.
Bon, allez, on va réussir à trancher cette fois. On va donner le point du moins pire film à Godzilla.
Ouais, voilà. Du meilleur pire film, presque.
Du meilleur pire film.
Ouais. Puis bon, dans King Kong 2, c'est peut-être la seule fois où il vit une histoire d'amour avec quelqu'un de son espèce, quoi. Ce qui n'est pas une très bonne idée, en fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Ils ont un enfant à la fin.
Ouais, oui.
Il est affreux.
Ce film.
Ouais,
mais voyez-le quand même.
Ah ouais, mais voyez-le carrément.
C'est... Il est quand même bien marrant.
Ouais.
You're mistaken if you think your powers are a match for Mechagodzilla.
Chief! Mechagodzilla's head control's out of order! We can't continue the operation!
Damn it. We'll have to postpone our attack on Tokyo. Bring Mechagodzilla back to the base for repairs.
Sir.
Bon, alors là, on va parler de grand cinéma. Qui a joué dans le meilleur film?
Alors, est-ce que vraiment il va falloir... je sais pas si on va mettre longtemps à sélectionner quel film est le meilleur pour les deux.
Ah bah je sais pas, alors, selon toi quel est le meilleur King Kong? Bon, je connais la réponse, mais je veux bien que tu me le redises.
Ah, t'attends à ce que je te dise que c'est celui de 33? C'est
non.
Ça que t'attends?
Non, je m'attends à ce que tu me parles de Peter Jackson.
Ouais, bon, bah, pour moi c'est largement le meilleur. Ouais. C'est largement le meilleur King Kong parce que bah, alors, non pas que ce soit un film parfait, hein, mais je pense que c'est en plus le plus important. Dans le sens où c'est un... En fait, King Kong, c'est un monstre qui est... on va dire très lié, comme on disait au début, au progrès technologique, en fait, finalement. C'est assez important, c'est pas quelque chose qu'on cite énormément, mais tu vois, le premier King Kong, celui de 33, c'est aussi le résultat du travail de Willis O'Brien, qui est quand même l'inventeur de la stop motion, tu vois.
Ouais.
Ce qui est quand même relativement important. Et c'est un truc qui va quand même le poursuivre. On parlait justement tout de suite de Carlo Rambaldi, alors que ça ait marché ou pas. Il n'empêche que c'était un truc qui engageait des ressources et qui avait une certaine ambition technologique dans le King Kong de 76. C'est quand même une performance. Et le King Kong de Peter Jackson, moi je suis très intéressé, il faut le savoir, hein, je sais que c'est pas le cas spécialement de tout le monde, mais je suis très intéressé par l'aspect technologique au cinéma. Et le King Kong de Peter Jackson, alors certes il a pris un coup de vieux, comme beaucoup de productions Weta, j'ai l'impression, Tu sais, les vraiment les trucs maison. Le Seigneur des Anneaux, tu vois, en termes de photos, notamment, je trouve que c'est des trucs qui ont malheureusement vieilli très vite parce que derrière, il y a eu un gros coup d'accélérateur. Ouais. Mais bon, du coup, vu que c'est eux qui l'ont mis, ça va, quoi. Et dans King Kong, en fait, ils élaborent beaucoup de choses. Ils essayent beaucoup de technologies qui sont hyper importantes, qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et donc, c'est un film que je trouve vraiment pas mal, en fait. Je l'ai revu plusieurs fois. Je suis conscient qu'il a pris un coup de vieux, mais tu vois, je trouve que la performance capture, par exemple, dans Andy Serkis, hein, évidemment, Andy Serkis, qui est partout tout le temps, elle marche très bien. Ils ont essayé plusieurs technologies. Il y a un truc qui s'appelle le wig, qui est un truc qui est encore utilisé très souvent. C'est de la manière dont on anime en fait la fourrure et les poils. Et on s'en rend pas compte, mais c'est pareil, dans le King Kong de Peter Jackson, c'était quasi révolutionnaire, tu vois. Et il y a un truc aussi qu'ils ont créé là et qui a vraiment eu un impact démentiel derrière. Et ça, c'est pas énormément cité non plus, c'est ce qui s'appelle le Citybot. Enfin, je sais pas si tu connais cette technologie.
Non.
C'est une technologie qu'ils ont traînée sur King Kong, en fait, où, en fait, tu prends un plan d'une ville. Et à partir de ça, tu génères de manière procédurale toute une ville derrière avec l'architecture que tu choisis en fonction de la période que tu choisis. Et en fait, ça te donne une ville complètement crédible à l'écran. Et en fait, tout le downtown Manhattan en fait, du King Kong de Peter Jackson est faux. Il est créé avec le Citybot. Et tu peux appliquer ça en fait, à n'importe quelle période, à n'importe quel contexte. Et c'est un truc qui est archi utilisé en fait, hein, maintenant dans l'industrie des effets spéciaux, quoi. Donc en fait, je pense que King Kong, au-delà du fait qu'il reprend le mythe de King Kong, qu'il rend, je pense, encore plus épique, tu vois, King Kong, il se bat avec un dinosaure en 33, bah là, du coup, il va se battre contre trois dinosaures à la fois, ça, tu vois. Et voilà, il le rend un petit peu over the top, tu vois, le film dure 3 heures, alors des fois, il est un peu lourd, hein. Mais par contre, je pense que c'est un film extrêmement important, mais comme beaucoup, beaucoup du travail de Weta de cette époque-là, c'est un film extrêmement important pour l'industrie des effets spéciaux. Et ce qui est un vrai héritage du King Kong de 33, qui était déjà un film important, par son aspect ambitieux avant-gardiste, en fait, presque. Donc oui, voilà, pourquoi c'est celui de tous que je trouve le plus réussi.
Ok. Et ton Godzilla préféré, c'est lequel, du coup?
C'est une question plus difficile. Alors, j'aurais tendance à parler du Godzilla de 54.
Ouais.
Que je trouve être une réponse en plus déjà par toute sa symbolique en fait, tu vois, que je trouve pour le coup vraiment très forte, et puis pour son aspect de réponse qui finalement prend King Kong à rebrousse-poil, tu vois, par rapport à ce qu'on parlait de stop motion tout de suite, Godzilla, il y a beaucoup plus déjà de monstres en costume.
Oui.
Déjà. Donc finalement, c'est quelque chose d'aussi d'assez culturel, hein, je pense.
Mais oui.
Il rebasculera ensuite du côté de Kong, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais dans King Kong 2, il y a énormément de scènes justement avec King Kong en costume. C'était Rick Baker qui était un animateur et qui avait designé le costume, je crois, ou le masque qui était dans le costume en fait. Hein. Donc, mon Godzilla préféré, tu sais quoi? Peut-être que c'est Shin Godzilla.
Ouais.
Que je trouve vraiment fabuleux. Et qui, en plus, est aussi le résultat d'un trauma, mais qui est plus le même pour le coup, puisqu'on est passé de Hiroshima à Fukushima. Ouais, mais c'est aussi le résultat d'un vrai trauma, quoi. En plus, je le trouve réussi visuellement, mine de rien. C'est un truc qui est à la fois un travail d'artisan et quelque chose que je trouve quand même exceptionnellement moderne. En plus, t'as plusieurs versions du monstre. C'est un truc assez ludique, finalement. Voilà. Moi, j'aime vraiment énormément Shin Godzilla, même si on peut pas le voir de manière saine, on va dire, en France. Quoi.
Alors, on peut le voir de manière légale, mais pas avec des sous-titres français.
C'est ça, c'est tout le problème.
Et on peut le voir avec des sous-titres français, mais pas de manière légale. Mais bon...
En tout cas, je pense que c'est la meilleure réappropriation du mythe possible.
Ouais.
Même si j'aime beaucoup le 2014.
Oui.
J'aime vraiment beaucoup.
Non, mais je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de citer, donc je trouve aussi que c'est... Je trouve que c'est le Godzilla 2014 est possibilement un des 3 ou 5 meilleurs Godzilla, je pense, d'un point de vue purement cinématographique, quoi.
Ah ouais, vraiment, c'est un vrai grand film. Grand film, non, je dirais peut-être pas jusqu'au grand film, mais en tout cas, je pense que Gareth Edwards sait très bien ce qu'il veut faire et il y arrive parfaitement, quoi.
Ouais, après c'est une question de sensibilité personnelle, mais je trouve qu'il est excessivement bien fait, et je trouve effectivement que Godzilla 54 est évidemment au niveau effets spéciaux, il a plutôt vieilli, mais il garde quand même une force et une tension assez incroyable, Et c'est un film vraiment impressionnant, en fait. Hein, quand
oui,
on...
bien sûr.
Même à découvrir maintenant, il a un impact assez fort, quoi.
Ouais, mais ce qui rejoint, encore une fois, le Godzilla de 2014, qui est un des films de monstres les plus impressionnants que j'ai vu.
Ouais.
Vraiment. Parce qu'ils arrivent dans l'iconisation, il est incroyable, le Godzilla de Gareth Edwards, je trouve.
Ouais, et avec beaucoup de hors-champ malgré tout, en fait.
Il y a beaucoup de hors-champ, mais c'est ça qui le rend impressionnant.
Bah
moi,
oui,
je pense
oui.
que c'est vraiment la banalisation de la créature qui casse la magie. Et ah c'est bah, peut-être cool. le problème ouais. de Kong Skull Island, où on voit King Kong ouais. apparaître dès le premier plan. Ce qui n'est pas le cas de, tu vois, du King Kong de Peter Jackson, où tu dois attendre 1h15 pour le voir arriver. Et en plus, il arrive, tu vois, vraiment dans l'ombre, dans la fumée, il est iconisé comme, tu vois, il est déifié aussi, hein, pratiquement, dans celui de Peter Jackson, ce qui marche vraiment bien. Alors que pourtant, il doit faire même pas 10 mètres de haut dans celui-là. C'est vraiment un singe de grande taille, mais c'est pas l'espèce de truc gigantesque qu'on voit dans le Skull Island ou dans le dernier, là.
Ouais. Mais ouais. Non, mais oui. En fait, dans Skull Island, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le Monsterverse, il change de taille à peu près tout le temps, quoi.
Ouais, mais alors ça, il change de taille déjà dans celui de 33. C'était une volonté de surréalisme, en fait, des réalisateurs.
D'accord.
C'est parce qu'ils voulaient pas l'intégrer dans un contexte complètement réel. Donc en fait, il passe parfois de 6 mètres de haut à quelque chose comme 30 mètres à l'échelle.
D'accord.
Et en fait, ils changeaient volontairement l'échelle. Et ils l'ont beaucoup augmenté de taille, manifestement, pour le premier Kong versus Godzilla, là, où Godzilla fait 50 mètres de haut. Du coup, King Kong, ils l'ont représenté comme faisant 45 mètres de haut.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais.
Dans le, tu veux dire Sud 62 ?
Ouais, Sud 62, ouais.
Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, Godzilla faisait encore que 50 mètres.
Oui, oui, oui. Alors que maintenant, il doit faire dans les 100 et quelques mètres.
Ouais, je crois. J'ai plus les chiffres.
Dans le film Godzilla, il fait 108 mètres dans sa forme finale.
Ouais. mais c'est vrai que Shin Godzilla est un film que je trouve. Je pense que c'est le plus brillant Godzilla de tous les temps. Enfin.
Bah ouais, ouais, c'est la plus belle appropriation du mythe.
Il pourrait pas exister sans tout ce qu'il y a eu avant. Mais ouais. Mais il n'empêche que c'est vraiment un film extraordinaire et qui. Il y a une dynamique de la bête qui est juste folle.
Son design est très réussi.
Ouais, et quand j'avais vu les premières images, j'y croyais pas du tout, quoi.
Ouais.
Parce que quand on le découvre, il est pas du tout. Enfin, vas-y, mais c'est quoi ce bordel ? Et en fait, quand on le découvre en dehors du film, je veux dire, et quand on le découvre dans le film, c'est complètement différent. Parce qu'en plus, il passe par plusieurs états avant d'arriver à sa forme finale.
Puis il y a cette espèce quand même de performance de réussir à rechoper. Tu vois, le contexte quasiment actuel, en fait, va de rechoper un autre trauma, quoi. Tu vois, qui est un truc qui fait complètement partie du personnage. Pour le rendre encore plus puissant, c'est de le rattacher à un espèce de traumatisme récent, quoi.
Bah, je trouve que j'ai vu la série Tchernobyl il n'y a pas si longtemps. Je trouve que c'est des œuvres qui se ressemblent beaucoup, en fait.
Ouais, bien sûr.
Entre Tchernobyl et Shin Godzilla.
Bah, tu redonnes à Godzilla son aspect, justement, de représentation traumatique, quoi. De vraie peur, tu sais, viscérale. Ce qu'il avait quand même parfois perdu, justement, dans toute sa période, ami des enfants, ou catch de monstres, tu vois. Il ne représentait plus grand-chose. Et dans Shin Godzilla, tu le ramènes vraiment au centre de ça, et c'est ça qui est fabuleux, quoi.
Ouais, complètement. Bon, alors, tu trouves que Shin Godzilla est un meilleur film que le King Kong de Peter Jackson ou pas ?
Non.
Est-ce que tu arrives à répondre à cette question ?
Ah non, je préfère le King Kong de Peter Jackson. Et là, t'as des gens qui sont présentement en train de me haïr. Mais non, je préfère le King Kong de Peter Jackson.
Ouais, mais c'est toi qui es au micro, donc...
Moi, je trouve que c'est un... Alors, je sais pas si c'est un meilleur film, mais c'est un film que je trouve plus important de par son aspect technologique, quoi. Déjà. Et que je trouve qui reste un film de plus grande échelle, à plus grande ampleur. Quand même.
Ouais, alors je suis pas d'accord,
mais je sais.
mais du coup, mais c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Écoute, ça va être un match nul encore. Hein.
Ouais,
je suis désolé, mais.
Ah non, bah écoute, c'est pas grave.
On peut pas être d'accord. C'est pas grave, parce qu'on a 2-30 pour trancher.
Ouais, ça va aller.
Vous saviez que cette chose était là ?
Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice. Ramenez-nous chez nous avec la preuve que les monstres existent.
Oh. Votre ami là, qu'il pose son arme.
C'est quoi cet endroit ?
C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il reste à l'écart la plupart du temps. Mais quand on entre chez les gens en commençant par lâcher des bombes, c'est qu'on cherche la bagarre. Kong est dieu sur cette île. Mais les démons vivent sous nos pieds.
Comment vous les appelez ?
Les rampants de l'île du crâne.
Pourquoi ?
J'avais encore jamais dit ça tout haut. Ça fait débile dit à haute voix. Bah, appelez-les comme vous voulez.
Donc finalement on est à 1-0 pour Godzilla. C'est un match très serré.
C'est très très serré.
Beaucoup de matchs nuls. Là on va se poser une question qui est le meilleur acteur.
Ouais.
Et je pense qu'on a déjà pas mal répondu en fait à cette question précédemment.
Bah bien sûr. Bah je pense oui. On est. Bah, en tout cas qui se rapproche le plus d'un acteur, on va dire.
Non mais là-dessus, bon voilà. Alors, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que King, c'est que comment dire, Godzilla a peut-être été littéralement beaucoup plus interprété par des acteurs que King Kong.
Oui. Puisque, en tout cas, par des acteurs réels.
Voilà, puisque bon, il y a quand même beaucoup de films de Godzilla où c'est des. Où c'est des acteurs qui sont derrière le costume, et en plus des acteurs très, très connus, très importants au Japon.
Bien sûr. Ouais.
Surtout le tout premier Godzilla.
Évidemment.
Mais, après, bon.
Disons qu'il a une interprétation unilatérale, quoi.
Voilà.
Tu vois?
C'est principalement marcher et écraser des maquettes et
mettre
des bourre-pifs.
Voilà, il est un peu monomaniaque, je dirais, au niveau de l'expressivité, tu vois.
Alors que c'est vrai qu'effectivement...
C'est un peu King le Schwarzenegger des kaijus, quoi, je trouve. Tu vois. Là, je trouve que King Kong a quand même une palette d'expression un peu plus étendue, quoi.
Oh, mais on est d'accord.
En termes de mouvement, voilà.
Non, mais ça rejoint tout ce qu'on a expliqué sur... Quand on se disait qui est le plus gentil, bah effectivement, il y en a un qui...
Auquel tu peux presque t'identifier quasiment en tant qu'humain. Tu vois, enfin, disons qu'il y a des comportements qui renvoient à l'humanité. Godzilla est fondamentalement inaccessible, quoi. Donc, je pense que King Kong est au-dessus en termes d'acting, tu vois.
Ouais.
Via le travail encore aussi technologique en termes de performance capture, il y a beaucoup de boulot qui sont faits, on sait, autour des personnages un peu simiens, comme ça. Justement, parce que je pense que c'est très intéressant pour un acteur de performance capture d'incarner un singe, mine de rien. Et ça se voit, hein, quand on voit évidemment King Kong, mais bon, il y a aussi la planète des singes, tous ces trucs-là. Et donc, je pense que King Kong a une palette d'expression, de mouvement qui est plus dynamique, en tout cas, que celle de Godzilla. Même si Godzilla commence à jouer, hein, dans Godzilla versus Kong, justement, comme on disait. Commence à faire des rires, à regarder la caméra, à rigoler, à faire un peu, tu sais, tant que tu l'entends.
Alors, il y a quelques films de la période Showa où Godzilla commence à faire des choses un peu étranges. À un moment donné, il serre la main de Jet Jaguar. À un moment, il fait une petite danse aussi. Bon, voilà, il y a des choses curieuses qui se passent. Ouais. C'est dans Godzilla versus Megalon qui doit être probablement. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu le citer dans la liste des pires films de Godzilla.
Ouais, mais il y en a beaucoup qu'on aurait pu citer.
J'ai fait le choix de la facilité en parlant de Godzilla 98, mais c'est vrai que. Il faut être honnête, moi j'adore Godzilla et bon voilà, pour plein de raisons, mais ça reste Godzilla, ça reste c'est le roi des monstres, mais c'est quand même aussi c'est le roi des vidéoclubs, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et il y a quand même beaucoup de films de Godzilla qui sont complètement absurdes. Et c'est pour ça que je les aime, mais c'est quand même des films absurdes. On n'a pas parlé du Monsterverse de Godzilla à proprement parler, c'est-à-dire tous ses copains, tous ses shitty friends qu'il avait avant.
Tu veux dire toutes ces relations d'amitié toxiques qu'il entretient
avec Ghidorah.
Dans son Monsterverse, ce qui est quand même assez marquant, c'est qu'il a des adversaires ou des collaborateurs, on va dire, qui sont devenus assez iconiques aussi de leur côté, tu vois. Oui. Alors peut-être moins pour les non-initiés, mais quand tu parles de Ghidorah ou de Mothra, tu vois, ou même de Mechagodzilla, c'est des personnages qui sont mine de rien assez connus dans la pop culture contemporaine, quoi.
Bah oui, sinon il n'y aurait pas Mechagodzilla dans Ready Player One.
C'est là où je voulais en venir, tu vois. je plaisante, hein, mais non, mais mine de rien, c'est bah quand si, même quand un même. Truc qui est cité dans un des films qui cite le plus de trucs littéralement. Tu vois.
Oui, oui,
oui, c'est des personnages après importants, quoi. Au point où d'ailleurs on déterre Mechagodzilla une dernière fois dans Godzilla vs Kong. Voilà.
Sera-ce la dernière fois, on ne sait pas.
Non, mais voilà, la dernière fois en date, en tout cas, pour raccrocher ça un peu à la mythologie de Godzilla. Tu vois, on n'a pas pris un ennemi historique de King Kong, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs, qui serait un tyrannosaure en fait quelque part, si on veut, ou un boa géant dans le
King Kong. Une pieuvre éventuellement.
Oui, une pieuvre. C'est vrai qu'une pieuvre. Ou alors des lézards dégueulasses dans Kong Skull Island. Ils sont vraiment affreux, ces ennemis-là. Mais oui, non. Je pense que par contre, le Monsterverse propre à Godzilla est beaucoup plus iconique que l'entourage de King Kong.
Ils sont une palanquée. Alors, ça, on n'a pas fait un round qui a les meilleurs copains, mais.
Ah non, mais ça serait gagné d'avance.
On aurait, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment une palanquée. Et d'ailleurs. Il y avait un jeu GameCube qui était sorti, je sais plus comment il s'appelle exactement.
Ouais, je vois ce que c'est.
C'est le Godzilla Melee de Super Godzilla Melee, un truc comme ça, qui est hyper drôle parce que t'as vraiment tout le monde, quoi. T'as tous les personnages.
C'est une licence d'ailleurs de jeux vidéo qui les cite pas littéralement, mais qui sont des caricatures de ces monstres-là. Je sais plus comment ils s'appellent.
Ah oui.
Où il y a une licence qui existe. Ouais, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Faut aller vérifier,
mais bon, ouais, c'est des monstres vraiment rigolos et intéressants à découvrir. Ouais. Bon, bref, King Kong est le meilleur acteur de toute façon,
oui, sans problème.
Voilà,
puis King Kong, voilà, il a des vraies scènes d'émotion, tu vois, avec Naomi Watts notamment. Quand ils font du patinage, là, dans la glace, tu vois, dans la salle de cinéma, je me rappelle que ça reniflait, quoi. Les gens étaient émus, quoi.
Bon, écoute, on va pouvoir passer au dernier round et c'est celui qui nous intéresse le plus. Don't act like a big shot, Hick. You just got to town. If you want to hang around with me, you better learn some manners, hein? Alors, dernier round, le vrai round de la baston, qui gagnerait le face-à-face? Je pense qu'on sait, en fait. En vrai, on sait.
Bon, on le sait, on a déjà eu la réponse de toute façon.
Parce que là, on est à un partout en plus.
Ouais, mais bon, il va bien falloir trancher un moment ou un autre.
Alors, ils sont, on l'a déjà dit, ils se sont rencontrés sur le grand écran.
Deux fois,
ils se sont rencontrés. Et alors, King Kong a fait de la baston. Alors, il a fait de la baston contre des dinosaures quand il n'était pas dans un univers partagé avec Godzilla.
Oh, c'est vrai.
Mais il fait pas beaucoup de baston.
Non, pas tant que ça.
Pas tant
c'est
que
pas,
ça.
C'est pas un mec si belliqueux que ça, tu vois.
Non.
Lui, il a plutôt tendance à se battre contre des plus faibles, tu vois. Il s'attaque aux indigènes, aux actrices blondes, mais il s'attaque moins aux monstres, tu vois. Voilà. Il s'attaque. Tu sais, il fait des duels de regard avec Samuel Lee Jackson, tu vois. Mais, mais il est moins dans le game de la baston de monstres, quoi.
Alors que Godzilla, bon, c'est vraiment un vénère, quoi.
Ah ouais, c'est son mantra, en fait. Hein. C'est voilà, lui, il faut qu'il montre qui est le plus fort, hein, tu vois. Au point, déjà, il va bien avec le titre de l'émission, tu vois. Il faut qu'il se montre, quoi. Il faut qu'il monte les muscles, là, au point aujourd'hui, il est fini en tant que si jamais il y a ne serait-ce qu'une petite menace qui pourrait le remettre en question, il vient tout défoncer pour montrer que c'est le plus fort.
Ouais, alors ça, c'est
de manière dégueulasse.
Donc dans Godzilla versus Kong 1962. Bon, désolé, je spoil, hein, mais.
Ah non, mais ça, c'est bon.
C'est match nul.
Ouais, c'est match nul, même s'il y a une très belle prise de King Kong qui fait tournoyer Godzilla avec sa queue, quand même. Ce qui était pas mal réussi, quoi.
Ah, il lui fait prendre cher, hein, quand même.
Ouais, il lui met quand même pas mal, ouais.
Mais à la fin, Godzilla arrive à se relever et lui envoie un Atomic Breath dans la tronche, et puis il lui met carrément le feu. D'ailleurs, c'est même un peu triste, ce passage. Et alors, il faut dire un truc, c'est quand on a dit qui est le meilleur acteur, on s'est plutôt penché, on a plutôt réfléchi aux versions américaines, mais le King Kong de Honda, il est quand même vraiment dégueulasse.
Il est dégueulasse, effectivement.
Il ressemble à rien, il est horrible.
Que bon, après, c'était un film un peu à part, quand même. Enfin, tu vois,
et alors, si... Donc on en parle pas souvent, mais il se bat contre un robot King Kong dans King Kong Escape.
Ouais, mais si on en parle pas souvent, c'est qu'il y a une raison, je pense.
Et là, c'est vrai que c'est pas un très bon film, mais il est rigolo quand même.
Ouais, c'est rigolo. Ah, puis bien sûr, ça c'est super rigolo. C'est la revanche de King Kong, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est assez drôle, ça. Mais bon, c'est pas un truc qui est extrêmement marquant quand même.
Après, c'est voilà, si vous voulez voir un robot King Kong, bon, vous savez où aller, quoi.
Ouais, voilà. Il est pas terrible d'ailleurs, le robot King Kong, mais
il est pas ouf, mais. Voilà.
Après, si dans Godzilla vs Kong 2021, moi j'ai entendu plein de gens dire, on sait pas qui. Moi, je pense que c'est Godzilla qui clairement lui fout une grosse tôle quand même, quoi.
Ah oh bah non, ça, il lui met une branlée gigantesque.
Mais tu sais, c'était complètement prévisible, même à l'annonce du film. Moi, j'ai ressenti la même chose que quand on a annoncé Batman vs Superman de Zack Snyder.
Oui.
Dans le sens où en fait, on venait de te présenter Superman comme plus puissant qu'il avait jamais été. Il était complètement impressionnant dans Man of Steel, tu vois, même si j'aime pas le film et tout. Mais la puissance dégagée par Superman était telle que tu disais que Batman, il pourrait jamais le battre à part, je sais pas moi, aux échecs, quoi. Tu vois.
Ouais.
Et donc, du coup, tu te retrouves un peu avec le même problème dans Godzilla vs Kong, où t'as vu avant Godzilla, King of Monsters et Kong Skull Island. Tu dis, bah, franchement, normalement, il y a pas match, quoi.
Ouais, alors ceci dit, dans Skull Island, on nous précise qu'il n'est pas encore adulte.
Ouais. Bah, d'ailleurs, il grandit entre les deux. Il est beaucoup plus grand dans le dernier que dans Skull Island, même s'il était déjà plus grand que tous les King Kong précédents, hein, dans Skull Island. Mais du coup, bon, bah, clairement, il n'y a pas match. D'ailleurs, c'est aussi tu sais, dans cette fameuse interview dont tout le monde s'était foutu de la gueule du réalisateur quand il avait dit que justement, pour approcher le combat, il avait décidé de faire de. Le King Kong comme John McClane. Justement, dans Feu, il l'a vraiment cité comme ça. Il a dit que King Kong, c'était John McClane dans le sens où c'est un outsider, tu vois. C'est un mec qui doit pas, normalement, se sortir de cette situation-là. Parce que, en fait, par contre, le film prend clairement parti pour Kong. Hein. Où c'est vraiment lui qui est le personnage central, c'est vraiment lui qui est du côté du bien, quoi.
Tout
ça, normalement, il voulait pas se battre, tu vois. On l'a mis là, mais il voulait pas se battre, quoi.
Ouais. C'est le gros connard de Godzilla qui arrête pas de l'attaquer.
Il arrêtait pas de foutre la merde et voilà, il fallait que Kong puisse les protéger, quoi.
Parce que c'est plus lui qui domine.
Ouais, tout ça parce qu'ils sont en train de construire un robot dégueulasse qui potentiellement peut le faire chier, quoi. Et du coup, bon, bah, Kong, c'est le mec qui est du bon côté, tu vois. Clairement, quoi. Parce qu'il est innocent et il est gentil, quoi.
Alors par rapport à la puissance de Kong dans le dernier, la 2021, on n'a pas parlé de Excalibur / Mjolnir, quoi.
Disons quoi, lui il est armé, que, là.
Tu vois, ils ont quand même osé envoyer King Kong au centre de la Terre.
Bien sûr,
il rencontre même pas de nazis, donc quel intérêt?
Non, c'est complètement con.
Pour remonter Mjolnir,
Mais même déjà, King Kong, il arrive au centre, je sais pas si tu te rappelles, mais il arrive au centre de la Terre et il est presque prêt à se faire bolosser par la faune locale, en fait, en deux secondes. Ouais. Il y a des animaux qui arrivent, qui commencent à le lancer, il est presque mort. Déjà, il a toujours besoin de l'appui des humains pour s'en sortir, en fait. Alors que je pense que Godzilla, il est trop fier. Il aurait pas demandé aux humains de l'aider, tu vois. King Kong, lui, il a tout de suite besoin de l'appui aérien, en fait, des humains, tu vois, pour se sortir de là. Parce qu'en fait, il aurait pu mourir comme une merde, tué par une espèce de ptérodactyle balèze en deux secondes, quoi.
Il retrouve un des machins dégueulasses de Sky Island, non?
Ouais, il y a les mêmes espèces de lézards là, qui sont censés venir du même endroit. Hein, c'était déjà dit dans Sky Island, quoi. Et après, du coup, il va chercher son espèce de hache lumineuse là. Ouais. Puis après, il s'assoit dans son trône quand même, parce que c'est le roi, tu vois. C'est le roi, mais tout seul. Et après, il remonte pour foutre une espèce de branlée à Godzilla. Tout cas, ça dure quelques minutes où il prend un peu l'ascendant, quoi.
Ouais, il prend un peu l'ascendant et après que Hong Kong ait été détruit pour la 25e fois au cinéma.
Ah bah oui, Legendary oblige.
Les capitaux chinois font que contractuellement Hong Kong doit être détruit une fois par an.
Ouais. Bah disons que là pour le coup, il n'y a plus de manif après la bataille. Clairement, je pense que les démocrates ont pris cher.
Mais là ouais, donc Godzilla met une branlée terrible à King Kong.
Ouais.
Et ils se rappellent que leurs mamans ont le même prénom.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, ils sont obligés d'utiliser Mechagodzilla au moment où King Kong est quasi mort pour en gros détourner l'attention du lézard, quoi, pour qu'après il puisse s'allier, quoi.
Et c'est vrai qu'il le met au sol et il fait.
Ah mais oui, il est en train de l'écraser comme une merde.
Bon, mais il lui rugit à la gueule et puis il repart quand même. T'es genre, c'est bon, j'ai buté la moitié de la population de. Alors que dans le 2014, il faisait attention de passer sous les bateaux pour pas les casser et tout, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'était vraiment le protecteur.
Ce qui peut aussi être un peu con, un peu couillon en soi, mais.
Oui,
mais
c'est vrai, juste, c'est pas très mal. Je pense pas que ce soit des trucs dont il se préoccupe, hein, normalement.
Mais pourquoi pas, quelque part. Enfin, je veux dire, après, si tu veux, au moins rester cohérent dans la couillonnerie, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais même dans King of Monsters, hein, il fait pas tant de dégâts que ça, en fait. En tout cas, dans des villes qui sont pas évacuées, ça va, quoi.
Ouais, il prend un peu le melon à la fin, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bah, ça se voit dans le dernier plan, en fait, c'est le nouvel Alpha, ça y est, il a pris la grosse tête assez vite, quoi. Mm. Pas très mature, je pense, voilà, King Kong, lui, c'est un outsider, comme on l'a dit, voilà, au point où, d'ailleurs, on y cite Die Hard, hein, le plan de, tu sais, où il saute du porte-avions, c'est le plan, en fait, de John McClane qui saute du toit dans Die Hard. C'est vraiment ça. En plus, tu lui mets un Marcel, t'es pas perdu, quoi. Et donc voilà, quoi, c'est un outsider, donc il est clairement présenté comme ça. Il est clairement pas de taille, en fait, hein. Il est plus petit de toute façon, tu vois bien qu'il est moins puissant, et puis il a pas de souffle atomique, lui. King Kong, faut qu'il fasse un peu avec les moyens du bord, quoi, tu vois. Il a une hache lumineuse, mais au final elle sert pas à grand chose, hein. Voilà, quoi. Elle retient un peu le souffle atomique quand même, il arrive à le repousser avec, quoi. Mais bon, en vrai, il y a pas vraiment de débat, hein.
Non. Ouais. Non, mais de toute façon, Godzilla a beaucoup trop d'entraînement. Il s'est fighté avec beaucoup trop de monstres tout au long de sa vie.
Ouais. Puis le physique, ça compte.
Il est trop affûté, quoi.
Le physique, ça compte. On essaie toujours de dire que non, si vous battez, le physique, ça compte pas. Non, je vous jure, ça compte. voilà. Si un jour, tu te frites avec un mec de 2m30, tu vois, c'est à peu près à l'échelle ce que ça ferait, quoi. Un mec de 3m, tu vois. Tu vas être emmerdé, je te jure.
Comme on dit, quand les types de 120 kilos disent des choses aux types de 60 kilos, ils écoutent.
Évidemment. C'est comme si toi, t'allais te friter avec un mec de 3 mètres, tu serais bien emmerdé quand même. Donc voilà, je pense que fondamentalement, ça compte. Et puis Godzilla est un espèce quand même de dieu. C'est quelqu'un, je sais pas quel âge il a, tu vois, mais il a tout connu, il a tout vécu. King Kong, il est encore tout jeune, tu vois, donc déjà il fait une belle perf, moi je trouve, hein, par rapport à son expérience. Voilà, donc il s'en sort pas mal, il a du potentiel, tu vois. Je pense que s'ils avaient le même âge, ça serait pas pareil, mais là non, là clairement je pense que Godzilla est tout dessus sans problème. Puis le film est gentil, le film nous montre que de toute façon ils sont meilleurs ensemble que dans l'adversité, tu vois.
Oui.
Que par le pouvoir de l'amitié, on peut tout affronter.
D'ailleurs, je sais pas ce qui est prévu, s'il y a une suite qui est prévue à ce Monsterverse.
Son of Kong.
C'est vrai.
C'est pas une blague.
Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce qu'ils vont reprendre l'albinos ? Je sais pas. J'espère pas.
Ouais. je sais pas si on va revoir Godzilla ou pas, du coup.
Je sais pas, mais est-ce que le fils de Kong, il va être super vénère, du coup, par rapport à la branlée que son père a pris, tu vois. Mais du coup, ça implique une femelle.
C'est ce que j'allais dire.
Donc, du coup, je sais pas. Voilà. J'espère qu'il y aura une ellipse temporelle, tu vois, qu'on n'en parlera pas et que ça sera pas, en fait, un espèce de reboot de King Kong 2, quoi.
Putain, ce Monsterverse, il partait bien, et à chaque film, c'est pire que le précédent.
Franchement, si dans Son of Kong, il faut revenir Linda Hamilton, comme dans Terminator Dark Fate, tu vois, là, je pense que ça peut valoir le coup.
Ça serait génial.
Ouais, ça serait incroyable.
Un retour de Linda Hamilton, super badass.
Ce serait incroyable. Et qu'il faut revenir à une femelle avec du rouge à lèvres et tout. C'est cool.
Alors, on n'a pas parlé de Queen Kong.
Alors non. Non, mais t'as envie de parler de Queen Kong?
Non, bah non. Non, on l'a dit, Queen Kong, allez le chercher sur internet.
Ouais, ça vaut un peu le coup.
On n'a pas parlé des rip-offs de King Kong, mais donc il y a Queen Kong, il y a, tu l'as mentionné, il y a le Colosse de Hong Kong.
Le Colosse de Hong Kong, ouais.
qui doit être le meilleur rip-off de King Kong, je pense.
Ouais, ouais, je pense. En tout cas, il a une espèce d'ambition artistique que les autres n'ont pas vraiment. Parce qu'après, il y a beaucoup de trucs qui sont plus ou moins passables, quoi. Après, il y a aussi beaucoup de rip-off de Godzilla. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a Gamera, hein. Déjà.
Non, monsieur.
Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est un vrai monstre
Gamera, évidemment. Évidemment, un rip-off.
Mais par contre, il y a des bons films, hein, Gamera.
Mais il a son originalité.
Il a des bons films. Je maintiens qu'il a des bons films.
Ah oui, moi j'adore Gamera, évidemment. Mais en plus, puis c'est quand même une tortue qui a des réacteurs intégrés, quoi.
C'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement cool. Ouais.
Excusez-moi, mais...
C'est vrai que je vois pas ça ailleurs. Mais en tout cas, qui a le meilleur rip-off, je pense que Godzilla aurait gagné aussi, quoi.
C'est possible.
Sans problème, parce que si tu fais le Colosse de Hong Kong contre Gamera, bon bah franchement, il n'y a pas trop de débat non plus, quoi.
Ouais. J'espère vraiment parler de Gamera un jour dans cette émission.
De quoi?
Je sais pas.
Ça va être dur.
Peut-être Gamera contre les Tortues Ninja ou...
Ouais, ok. Ça va être dur de trouver un adversaire comparable.
Contre Pulgasari, peut-être. Je sais pas.
Ah, peut-être. Ça se tente.
Ouais. Enfin bon. Bon, bah écoute, merci d'être venu.
Ah bah, pas de problème. Du coup, c'est Godzilla qui gagne.
Ouais, c'est Godzilla qui gagne.
D'un point, on le savait depuis le début, mais on a essayé de ménager un peu Kong. Mais...
C'est exactement à l'image de Kong versus Godzilla 2021, c'est que depuis le début, on le savait. Mais il a quand même résisté fièrement jusqu'au bout.
Ouais, mais il aurait pu faire un sale coup, un coup bas, tu vois. Mais parce qu'il, vu qu'il est trop noble, il peut pas. Mais,
ouais, il est gentil.
Mais il aurait pu gagner sur un coup bas, je pense. C'était pas inconcevable. Non, on s'en fout de ce film. Hein. On peut parler, mais on s'en fout. Hein. Franchement, hein, c'est juste rigolo, vaguement, mais c'est mauvais.
Le 2021, tu veux dire,
le 2021. Le 2021.
Ouais, il est très mauvais.
Ouais, c'est terrible.
Il est très mauvais. Et tu vois, même King of Monsters, qui est très mauvais, mais j'arrive quand même à me divertir avec.
Mais il est relativement divertissant, King of Monsters, il a juste un problème de ton. C'est-à-dire qu'il est perdu entre faire un film de monstre à dimension humaine comme celui de Gareth Edwards et faire un film de monstre hyper spectaculaire. Du coup, il sait jamais quoi faire. Et puis les personnages humains sont quand même particulièrement cons dans King of Monsters, tu vois. Les éco-terroristes qui veulent réveiller les monstres pour rétablir la paix, enfin franchement, t'es censé savoir tout de suite que ça va pas marcher, quoi. Cohabiter avec des machins de 300 mètres de haut, je sais pas, quoi. Je sais pas.
Ouais, puis... Après, c'est... Moi, à titre personnel, je fais une petite overdose de CGI massif, là. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça devient dur de voir ces films, en fait.
Il y a plus rien en dur dans... Et puis ça veut pas le faire, ça veut même pas faire semblant, si tu veux. Ouais. Là où je pense que, par exemple, Pacific Rim a été plutôt apprécié parce qu'il y avait un côté organique dans ce qu'il proposait. Dans le design du robot, par exemple, tu vois. Dans le premier, je te parle uniquement du premier. Qui était un truc plutôt organique. Disons qu'en fait, il y avait quelque chose de quasiment crédible dans les mouvements des Jaeger, tu vois. Ça fonctionnait pas mal, je trouve. Et puis surtout
il y avait l'intelligence de pas en mettre trop et de nuit et sous la pluie.
mais bien sûr, après tout ce qui est fait avec je trouve les justement la pluie et tout, c'est un élément de mise en scène qui était complètement central en fait
mais justement c'était malin, enfin ça
magnifique. Et puis mine de rien, c'est une leçon de gigantisme assez folle. Il suffit d'un plan en contre-plongée à taille humaine avec un méca qui passe avec un paquebot dans les mains pour tout de suite comprendre un peu la portée du truc.
Oui. Bah...
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, de la différence fondamentale d'aborder le monstre en fait Asie-Occident. Tu sais, par rapport au point de vue. Parce que tu remarques qu'au Japon, par exemple, on a tendance à embrasser le point de vue de Godzilla. Tu sais, de placer la caméra à hauteur du regard du monstre en fait. Au-dessus des toits, alors que c'est vrai qu'aux États-Unis on a tout de suite tendance à te mettre plus à hauteur humaine pour le filmer d'en bas, quoi. C'est un truc très américain, ça.
Ce qui est marrant, c'est que le ce qu'a fait Tsuburaya et Honda, enfin avec Honda, ça a été tout de suite de finalement construire des, de rapetisser la ville, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est de le rendre en rendant la ville plus petite, alors que du côté plus américain, et même déjà chez Roland Emmerich, même si c'est moins impressionnant, c'est de le montrer en te plaçant toi, en fait, à hauteur humaine. C'est de le voir comme si t'étais spectateur un peu du truc, quoi. Et on voit ça dans le Gareth Edwards, d'ailleurs. Hein. C'est ça aussi qui le rend très fort dans l'iconisation.
Oui, puis pour le coup, il y a un vrai fil rouge qui est intéressant avec les décisions des êtres humains autour de Godzilla.
Ouais, bien sûr. Puis le fait qu'en fait, ça soit un film d'humains, ça soit un film qui se concentre sur les humains qui subissent en fait ce truc-là. Godzilla, c'est pas vraiment un personnage central du film Godzilla finalement. C'est plutôt des humains qui vivent en milieu des attaques des kaijus. Le prisme est complètement inversé à partir du King of Monsters, et je pense qu'à mon avis, ça fonctionne beaucoup moins, parce que ce qui nous intéresse aussi dans des films de monstres comme ça, alors moi comme toi, j'ai aussi envie de voir des monstres se foutre sur la gueule, parce qu'on est un peu venu là pour ça, mais bon, je pense que les histoires humaines en fait comptent quand même pas mal.
Ouais, bah oui. Alors après, c'est toujours pareil, sinon on remet des histoires... C'est vrai que Kong, c'est plutôt la métaphore du rapport entre l'humain et l'animal, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Alors qu'évidemment, Godzilla, c'est plutôt la métaphore du monstre qui tape très très fort un autre monstre.
Oui, et puis c'est quand même la métaphore d'un holocauste nucléaire, quand même, faut pas l'oublier.
Bah oui.
Mais bon, finalement, c'est des problématiques humaines, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que, bon, quand on enlève complètement l'humain de l'équation, ça m'embête toujours un peu dans ces films-là, quoi.
Et une fois de plus, Shin Godzilla est un grand film aussi de ce fait.
Bah oui.
C'est que c'est un film qui est extrêmement humain.
C'est pour ça qu'il est brillant.
C'est même un film...
C'est un film qui met l'emphase sur les humains avant de mettre l'emphase sur le monstre, finalement.
Ouais, complètement. Bon, mais écoute, ça sera le mot de la fin. Hein.
Bah, c'était un très beau mot de la fin.
Où est-ce qu'on peut te retrouver quand tu parles pas de Godzilla?
Quand je parle pas de Godzilla, on peut me retrouver dans un podcast qui s'appelle Final Cut. Voilà, ça doit faire 2 ans quasiment que ça dure. Ça fait peut-être un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui parle de réalisateur? Dans un podcast qui s'appelle Hcast, qui parle uniquement de cinéma d'Asie, hongkongais en priorité. Voilà, quand Hong Kong se fait pas détruire, c'est aussi une ville où il se passe plein de choses. Voilà, notamment beaucoup de films de policiers, le film d'arts martiaux, voilà, beaucoup de choses. On parle aussi d'autres films asiatiques, hein, bien sûr. Puis dans d'autres petites choses, un spin-off de Retour vers le Turfu qui s'appelle Shitlist Cast, qui est un... Enfin, Shitlist, hein. Shitlist Cast, c'est le nom du compte Twitter. C'est un podcast qui parle de... On prend une thématique et on essaie chacun d'apporter les films qu'on aime le moins, disons, autour de cette thématique, quoi. D'expliquer un peu tout ce qui s'est passé, quoi. Et puis voilà, je pense que pour l'instant, c'est à peu près tout. Il y a un livre qui s'appelle Hong Kong Action aussi qui va sortir au mois de septembre en théorie, à peu près.
Okay.
Voilà, qui parle du cinéma d'action de Hong Kong et puis voilà.
C'est pas mal.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Un agenda bien rempli.
Ouais, c'est vrai.
Bon bah cool. Et bah écoutez, moi, vous pouvez me retrouver sur le podcast Underland, sur Stockholm Sardou,
voilà.
sur mon voisin Miyazaki, où on fait le tour de la filmographie complète de Hayao Miyazaki. Parce que j'ai découvert qu'il y avait un autre podcast qui s'appelait Miyazaki Podcast, mais qui parle de l'artiste, je ne sais plus son prénom, Miyazaki, qui est, je sais pas, qui fait du design, je crois, de jeux vidéo, un truc comme ça.
Okay.
Ouais, donc... Grosse déception.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est pas bien. Ça.
Non, c'est pas très bien.
Ouais, mais je trouve que leur nom est moins bien.
Bah ouais, en plus, The Miyazaki Podcast, c'est quand même.
Ouais, c'est voilà, pas quoi. Fait chier. Hein.
C'est en anglais. Hein.
Oui, bah oui, j'espère.
Donc voilà, et puis bon, bah, c'est qui le plus fort, un rythme très erratique depuis quelques temps. Mais ça va changer. Ça va changer.
Très bien.
Il y a sûrement des choses qui vont arriver là bientôt. Eh ben écoute, merci beaucoup, Marvin.
Merci,
ça m'a fait plaisir.
Merci à toi. C'était très cool.
Et Kong et Godzilla te remercient conjointement.
Ouais, j'espère. Je les remercie aussi. Hein. Oui, en passant, tu peux passer le message. Merci d'exister. Voilà.
Je leur dirai.
Voilà. J'espère quand même que d'ici, je sais pas, peut-être une petite décennie. On pourra les retrouver en meilleure forme, quoi.
Dans un bon film.
Voilà, surtout ça qui m'inquiète un petit peu maintenant. Mais écoute, voilà, écoute, au moins il y a un certain passif glorieux et c'est déjà pas mal.
Ouais. Bon, bah finalement, heureusement qu'on était là pour faire le
vrai bel affront. On est presque sur l'actu, hein. Il y a pas mal de choses qui sortent autour des kaiju, de King Kong en ce moment, tu vois, des films et tout. Du coup, ça a remis un petit peu quand même les projecteurs dessus. Depuis le Monsterverse, on peut pas leur enlever ça. Donc, oui. C'est déjà pas mal.
Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, bon, on va voir si. On va voir ce qu'il nous réserve, mais ouais. Je sais pas. En tout cas, nous, on sera toujours là pour en parler.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Allez, à bientôt.
Salut.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.